La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui mardi, deuxième jour de notre série consacrée à Joseph Conrad dans une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Chloé Kaczmarek avec à la console Anthony Thomasson. Il est né en 1857 dans une famille polonaise issue de la noblesse, mais d'une noblesse assez contestataire, pour être envoyé en exil en Russie, ce qui, pour le jeune Conrad, sera un début de vie particulièrement sombre, bientôt encore assombri par la perte très jeune de ses deux parents. On divise traditionnellement sa vie en trois parties, plus ou moins égales, l'enfance et l'exil d'abord, puis la vue maritime ensuite, et enfin la vie d'écrivain. Pour en savoir davantage sur ces trois moments, n'hésitez pas à vous reporter à notre émission d'hier, c'était avec Alain Dugrand. Et demain, pour présenter le volume de la Pléiade qui vient de sortir sous le titre « Au cœur des ténèbres et autres récits », nous recevrons celui qui l'a coédité et qui en a rédigé l'introduction, Marc Poré. Enfin jeudi, deux visions de Conrad. La première sera celle de Michel Lebris, écrivain et amoureux de la mer, et la seconde sera celle de Claude Mézonna, qui a coordonné le cahier de Lerne consacré à l'auteur de Lord Jim. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler d'abord de la ligne d'ombre, puis ensuite d'une rencontre non avérée, mais non affirmée non plus, entre Rimbaud et Conrad, je reçois Alain Jaubert. Il est l'auteur d'une préface à la ligne d'ombre chez Folio Classique, ainsi que d'un roman au bord de la mer Violette chez Gallimard, où il est question d'une rencontre justement entre le poète et l'écrivain. Bonjour Alain Jaubert.
Bonjour.
On peut commencer, si vous le voulez bien, par la ligne d'ombre et brosser à grands traits l'histoire de cette grosse nouvelle, ce court roman. Que diriez-vous ?
Petit roman, on va dire, pour être entre les deux.
Lui-même ne savait pas très bien.
Lui-même ne savait pas, non. Il l'a écrit très brutalement, comme ça, sous une impulsion. On est en 1900... Enfin, il l'a commencé en 15, il a fini en 17. Donc son fils s'est engagé, il est à la guerre, la famille Conrad vit dans une espèce de trauma permanent, parce que les nouvelles en Angleterre n'étaient pas vraiment bonnes. Et il se met tout d'un coup à parler à la première personne, à écrire à la première personne, et à se remémorer un moment de sa vie qui est assez exceptionnel, puisqu'il n'a jamais en fait été capitaine, et c'est son premier et dernier commandement.
Alors c'est l'histoire d'un jeune homme, on dira tout à l'heure en quoi il ressemble à Conrad lui-même, qui va prendre pour la première fois le commandement d'un navire, alors qu'il n'y est absolument pas préparé, Alain Jaubert.
Ah si, il est préparé, parce qu'il a beaucoup navigué au cours des années précédentes, mais toujours comme... Alors il a commencé comme matelot, il a vraiment commencé très très bas, et il a fini quand même par réussir à passer son brevet de capitaine en Angleterre, après un premier échec, parlant très très mal l'anglais, s'exprimant mieux en français d'ailleurs. Mais enfin bon, il a choisi l'Angleterre. Et ensuite, il est passé à différents stades de lieutenant et capitaine.
Alors là, vous parlez de Conrad lui-même.
Mais il était toujours second, oui, c'est ça.
Ouais. Mais personnage...
Oui, mais le personnage... Non, le personnage qu'il décrit, c'est lui. C'est lui, puisqu'il parle à la première personne. C'est un petit roman autobiographique dans lequel il y a du vrai, le nom du navire, le parcours, les circonstances bizarres de son embarquement. Et du faux, évidemment, sur lequel nous allons revenir.
Donc ce personnage se voit confier le commandement d'un navire. Il va se retrouver en mer et là, c'est un calme plat désarmant.
Dead calm, comme disent les Anglais, ce qui est l'inverse de... Alors on peut dire qu'effectivement, le roman est l'inverse de Typhoon. Dans Typhoon, on avait un capitaine... On dirait aujourd'hui con comme un balai, hein. C'est un type qui avait rien dans la crâne, mais qui avait une espèce de formidable énergie de taureau, et qui, à travers une tempête complètement fabuleuse, réussissait quand même à sauver son navire.
On va revenir un petit peu sur le capitaine. J'essayais de vous faire raconter un tout petit peu les grandes lignes de ce roman. Donc, se retrouver en mer dans un calme plat. Et puis, le voilà aux prises avec une terrible épidémie qui va décimer son équipage, non pas en les tuant, en les faisant mourir, mais en les rendant absolument impropres à naviguer, tout simplement. Je voudrais qu'on écoute pour commencer la découverte par ce très jeune capitaine de son navire dans une lecture donc de la ligne d'ombre par Claude Weibel.
Je m'étonnais de mon état d'esprit. Pourquoi n'étais-je pas plus surpris? Pourquoi? Voilà que j'étais investi d'un commandement, en un clin d'œil, non pas selon le cours habituel des affaires et des hommes, mais plutôt comme par enchantement. J'eusse dû être éperdu de stupéfaction. Il n'en était rien. J'étais tout à fait comme les personnages des contes de fées. Rien ne les ébahit jamais. Lorsqu'un carrosse de gala tout orné surgit d'une citrouille pour la conduire au bal, Cendrillon ne se récrie pas. Elle s'y installe tout tranquillement et s'en va vers son haut destin. Le capitaine Hélice, fée d'une espèce assez farouche, avait fait sortir un commandement d'un tiroir de manière presque aussi inattendue que dans un conte de fées. Mais un commandement est une idée abstraite qui m'a paru comme une sorte de merveille mineure jusqu'au moment où je pris soudain conscience qu'elle impliquait l'existence concrète d'un navire. Un navire. Mon navire. Il était mien, plus absolument confié à ma domination et à mes soins que toute autre chose au monde. Objet de responsabilité et de dévotion, il était là qui m'attendait, envoûté, incapable de bouger, de vivre, de faire son apparition dans le monde, jusqu'à mon arrivée, comme une princesse ensorcelée.
Alors cette première description que Conrad fait de la découverte par son personnage de son navire, on imagine que là, il l'a puisé directement dans ses souvenirs. Alain Jaubert, La ligne d'ombre, c'est donc son roman le plus autobiographique. Aucun n'est même plus explicitement autobiographique que La ligne d'ombre.
Oui, c'est sûr, parce que autant il s'est inspiré de beaucoup d'épisodes qu'il avait vécu. Par exemple, il reçoit une vergue sur le dos, il reste plusieurs semaines à l'hôpital à Singapour. C'est un épisode qu'il va réutiliser dans le personnage de Lord Jim. Un de ses premiers embarquements, c'est sur un navire qui s'appelle le Palestine, qui est chargé de houille et qui prend feu. L'équipage abandonne évidemment le navire avant que tout soit brûlé. Ils auront un procès, ils seront acquittés, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Lord Jim. Si vous voulez, il y a plein d'épisodes comme ça qui vont évidemment nourrir son œuvre. Mais là, il raconte du début jusqu'à la fin, donc sur quelques centaines de pages, un épisode qu'il a vécu. Et c'est très intéressant parce que on dirait qu'il a attendu d'être investi au grade de capitaine pour pouvoir dire « je ». Et alors, il est pris tout d'un coup dans une folie totale, c'est-à-dire que... Alors, il commence par s'interroger sur le destin, effectivement, c'est ce qu'on vient d'entendre, parce que la première partie se passe à Singapour. Il y a le capitaine Hélice qui est une sorte de qu'il désigne comme une sorte de dieu des mers. Et il y a une rivalité avec un autre personnage et finalement on lui donne le commandement.
Donc c'est un début sur Terre. Hein.
Oui,
assez
comme,
long d'ailleurs.
Comme dit Jean-Pierre Nogret, on passe de Kafka. Enfin, ça ressemble à du Kafka, quoi. Et puis donc ça c'est le monde de la Terre. Et puis après il y a le monde de la mer. Alors pour lui c'est la liberté, le vent, l'aventure, etc. Malheureusement il n'y a pas de vent. Alors ça c'est la première chose épouvantable, c'est-à-dire que le navire reste complètement immobile et il découvre que son équipage est complètement malade, dysenterie, choléra, etc. Et à l'intérieur de cet équipage, il y a deux personnages qui vont être en quelque sorte antithétiques. Il y a Burns, le second, qui a été très frappé parce qu'on lui a donné ce bateau à Conrad parce que le capitaine était mort en mer, avait été immergé, etc. Bon. Et Burns qui reste complètement hanté par le personnage du capitaine d'un côté. Et le steward, Ransom, qui a une maladie cardiaque, on s'attend à ce qu'il meure d'un moment à l'autre, qui va être son ange, en quelque sorte son ange gardien, celui qui va sauver Conrad dans plusieurs situations. Enfin, je dis Conrad, il s'appelle pas Conrad dans le roman, mais il s'appelle Je, quoi. Et donc, Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire une grande interrogation sur le destin. Pourquoi moi je suis là? Pourquoi les autres sont là? Qu'est-ce qui se passe, etc. Donc une grande réflexion sur le, sur l'existence ou l'inexistence de la providence, de Dieu, enfin appelons-le comme on veut. Et ça, c'est la première chose.
Ensuite, alors il faut dire aussi, du côté de l'autobiographie, que Conrad lui-même a eu ce mouvement très jeune. Il était sur un bateau qui s'appelait le Vidar. Il était embarqué comme second. Et il a décidé, alors que finalement une carrière s'ouvrait à lui, une carrière assez tranquille, sans doute prestigieuse aussi, il décide de quitter le bord de ce navire, et le capitaine de ce bateau, le Vidar, le capitaine Craig, qui aurait bien voulu le garder, ne va pas comprendre ce mouvement. Et ça, on le retrouve exactement dans la ligne d'ombre, quasiment transposée.
Oui, c'est le début en fait de l'histoire. On se raconte là en ce moment l'histoire à l'envers.
Mais on la raconte aux auditeurs.
Voilà, exactement. Il a un poste de second sur le Vidar. C'est un navire métallique, pépère, qui fait toutes les côtes de Bornéo, de Sumatra, etc. Et ça dure 4, 5, 6 mois. Puis tout d'un coup, il s'en va, il démissionne. Tout le monde s'attend à ce qu'il rentre en Angleterre. Et moi, j'ai toujours pensé, en fait, que ces mois de navigation, puisqu'il fait escale dans chaque port, petit port, chaque estuaire de Bornéo, il avait rempli son sac de ces histoires. Tout ce qu'on va retrouver après, ça commence par la folie Almayer. Almayer est un personnage qui voit sur un ponton dans un port de Bornéo. Hop, il va en faire un roman. Le nec du Narcisse, un paria des îles, etc. Tout ça est sorti de ces quelques mois de navigation. Après, ça n'intéresse plus. Et donc, on sent qu'il est prêt à rentrer en Angleterre. Et puis, tout d'un coup, il y a cette proposition, cette rivalité avec un autre d'abord, et cette proposition d'embarquer sur un navire qui se trouve quand même très loin, à Bangkok, dont le capitaine est mort. Donc, sont un peu les prémices, disons, de cette aventure, quoi.
Et alors, on voit du coup que c'est un roman qui est peut-être un roman d'initiation. En tous les cas, le narrateur semble expliquer que la ligne d'ombre, ça peut être la ligne qui sépare la jeunesse de l'âge adulte.
Oui. Ouais, y a un très beau passage, je peux le lire d'ailleurs, c'est peut-être... qui essaye d'expliquer... Ce que c'est que la ligne d'ombre. Et c'est un terme d'ailleurs que lui seul a utilisé et dont personne n'a jamais trouvé la vraie traduction, si j'ose dire.
D'ailleurs, il vous interroge ce terme,
ligne d'ombre. On referme derrière soi la petite porte de la simple enfance et l'on pénètre dans un jardin enchanté. Ces ombres mêmes brillent de promesses. Chaque détour du sentier a son attrait. Et ce n'est pas qu'il s'agisse d'un pays encore inexploré. On sait fort bien que tout le genre humain a défilé par ce chemin. Bon, on passe un peu. Oui, on va de l'avant. Et le temps, lui aussi, va de l'avant, jusqu'au jour où l'on aperçoit devant soi une ligne d'ombre annonçant qu'il va falloir aussi laisser en arrière la région de la prime jeunesse. Et donc, ça, c'est quelque chose qui l'invente, the shadow line, qui est assez difficile à expliquer. On ne sait pas si c'est... parce qu'une ligne, déjà, c'est pas forcément ombré, enfin ombreux. Alors les marins ont évidemment énormément de lignes, hein, comme nous tous d'ailleurs. J'ai pris le métro sur une ligne pour venir ici. Enfin, la ligne, c'est quelque chose qui compte dans la vie. Mais la ligne d'ombre, qu'est-ce que ça peut bien être? Il ne l'explique pas, mais il a l'air de dire que c'est une espèce de frontière, une barrière, et qu'on la voit arriver peu à peu, mais qu'il y a des lignes d'ombre en fait pour chaque étape, pour chaque moment de la vie. Mmh. Et là... il évoque la ligne d'ombre que la génération d'après, son fils en particulier, Boris, rencontre à l'horizon.
La ligne d'ombre, c'est la ligne de front.
Voilà, et cette fois-ci, c'est la ligne de front.
Ouais. On va en reparler à l'occasion de la dédicace, parce que ce livre est dédicacé à son fils et à ceux qui partent à la guerre. On peut dire un mot peut-être sur ce personnage que vous avez commencé d'évoquer, le personnage de Ransom. Alors, son nom déjà évidemment, appelle à un commentaire.
Absolument. Alors, Ransom, c'est un personnage qui est vraiment comme un personnage dans le théâtre des origines en Angleterre, quoi. C'est personne et c'est tout le monde à la fois. Et c'est rançon, en quelque sorte. La vengeance ou le prix qu'il faut payer, c'est-à-dire que c'est un homme qui est quasiment mourant, il a une maladie cardiaque, pour franchir cette ligne, justement, qui est là, qui peut être aussi la ligne infranchissable de ce bateau dans le golfe de Thaïlande. Et en fait, Ransom, il est intéressant parce que, si vous voulez, le récit de Marin, c'est un livre assez noir, mais qui se termine bien. Et le prix qu'il faut payer en général dans ces aventures maritimes, c'est la mort, la destruction, la tempête, etc. Et lui, au dernier moment, Ransom, comme d'ailleurs Conrad, met pied à terre et décide de s'en aller, de rentrer, c'est de ne pas continuer. S'il persévérait, il mourrait de sa crise, enfin de sa cardiopathie, disons. Et alors, il s'oppose par son maintien, par sa structure, par sa dignité, au personnage de Burns, qui est le second, qui lui devient de plus en plus fou jusqu'à se disloquer complètement. Et cette espèce de dislocation mentale du second est contagieuse. C'est-à-dire le personnage dit Conrad, hein, ça sera plus facile, mais Conrad lui-même, le personnage le capitaine, commence lui-même à se disloquer sous l'influence de l'autre. Il voit... parce que c'est très étroit ces navires, hein, donc les cabines sont très proches les unes des autres et les unes au-dessus des autres. Et donc il voit tout d'un coup Burns en train de s'enfoncer un couteau dans la gorge. Et il imagine tout de suite un sujet alors que l'autre est en train de simplement de se couper la barbe. Et alors tout est comme ça. C'est-à-dire, il devient lui-même un peu fou. Et la seule réaction qu'il a pour lutter contre cette folie, c'est le journal de bord. Il écrit. Et donc, il y a aussi là une espèce de fable sur... Alors, je ne sais pas si à l'époque... Je pense que Conrad a écrit énormément, fait des carnets, etc. Mais il n'y a rien. Il brûlait tout à mesure qu'il écrivait.
Ouais. Rappelons que c'est quand même un an et demi à peu près avant qu'il ne se mette réellement à écrire Altmaier.
Oui, absolument. Mais moi, j'imagine que... Parce que si vous voulez, il y avait des semaines de mer, des mois en mer pour aller en Australie, etc. Je pense que c'est la seule occupation qu'il avait, c'était effectivement d'écrire dans des carnets, sur des papiers, etc. Donc dans le roman, enfin dans la ligne d'ombre, il écrit tous les jours, il décrit son état mental, et on sent que c'est que l'écriture, la littérature, est en quelque sorte le remède contre cette folie qui
Et alors, ce personnage de Ransom, vous dites qu'il décide de rester à terre. C'est peut-être aussi une réflexion sur ce que c'est que l'héroïsme. Parce que voilà. Le vrai héros, finalement, aurait repris la mer. Exactement. Malgré sa maladie.
Exactement. En même temps, il y a beaucoup d'humour dans ce livre. C'est-à-dire que c'est un livre complètement dramatique, mais il y a beaucoup d'humour. Par exemple, à la fin, il y a un peu de vent, donc il se soulève. Et tout d'un coup, le capitaine, Conrad, a une larme qui coule le long de sa joue, il est très étonné. En fait, c'est une goutte de pluie. Et cette larme, il y a plein de notations comme ça qui sont assez, assez drôles, en fait. Et alors, si vous voulez, toute la folie de Burns fait penser que c'est le capitaine... Enfin, il fait penser à tout le monde que c'est le capitaine qui flotte sous l'eau, qu'il est maudit, qu'il y a une malédiction, qu'il y a un sort qui a été jeté sur le bateau. Et donc, tout le travail du capitaine, le travail intellectuel, c'est de lutter contre la superstition. Bon, je pense que Conrad était devenu athée. Il est né en Pologne, dans un pays très catholique. Et il l'écrit plusieurs fois. Il ne le dit pas comme ça. Il a été quand même très proche de certains anarchistes. Et dans ses trois romans politiques, on va dire, un Nostromo, Sous les yeux d'Occident, et... Tiens, j'ai oublié le troisième. Si, c'est...
L'agent secret.
Merci.
En plus, si vous voulez, Au cœur des ténèbres, c'est quand même un roman qui a été doublé aussi de réflexions sur son voyage au Congo. Il est anti-Léopold, anti-colonialiste, très très violent. Donc, si vous voulez, son état d'esprit à l'époque est plutôt de lutter contre la superstition, lutter contre le surnaturel. Et là, le surnaturel l'excède, quoi. Il trouve que c'est vraiment la folie de Burns, il ne la supporte pas. Et il essaie de montrer que tout ce qui lui arrive, c'est vraiment tout à fait logique.
Allez, un deuxième extrait, lu cette fois par Denis Podalydès, de La ligne d'ombre.
J'avais cru tous mes sentiments engourdis, muets en une totale indifférence. Mais je trouvais aussi pénible que jamais d'être sur le pont. L'impénétrable obscurité enserrait le navire de si près qu'il semblait qu'en allongeant la main par-dessus bord, on pourrait toucher quelque substance surnaturelle. Cela produisait un effet de terreur inconcevable et de mystère inexprimable. Les rares étoiles au ciel jetaient une lumière indistincte sur le navire seul, sans le moindre miroitement sur l'eau, sous forme de raies séparées, perçant une atmosphère transformée en suie.
C'était une chose que je n'avais jamais vue auparavant et qui ne donnait aucune indication sur la direction d'où viendrait n'importe quel changement, comme une menace se refermant sur nous de toutes parts. Il n'y avait toujours personne à la barre. L'immobilité de toute chose était absolue. Si l'air était devenu noir, rien ne prouvait que la mer ne fût pas devenue compacte. Il ne servait à rien de regarder dans une direction quelconque, à la recherche du moindre signe, en spéculant sur la proximité de l'instant critique. Le moment venu, l'obscurité submergerait silencieusement la faible clarté des étoiles tombant sur le navire, et la fin de toute chose viendrait sans un soupir, un mouvement ou un murmure quelconque. Et tous nos cœurs cesseraient de battre comme des pendules que l'on n'a pas remontées.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons avec Alain Jaubert de La ligne d'ombre de Joseph Conrad. Alors, il y a deux manières de mourir en mer, Alain Jaubert. Vous le savez bien, il y a la mort par la tempête, par l'ouragan, par le typhon. Et il y a la mort par calme plat, par absence complète de vent où l'on dépérit lentement. Calme plat, grand miroir de mon désespoir. C'est la citation que Conrad reprend de Baudelaire pour illustrer, mettre en exergue de son livre. Comment la ressentez-vous, comment la lisez-vous, cette citation ?
Je pense qu'il y a toute une partie de la littérature américaine qui est sortie de Conrad, et Conrad lui-même sorti de Baudelaire. C'est une espèce de hasard fou qui fait qu'il s'est mis à écrire en anglais, mais il aurait pu très bien écrire en français. Il parlait très très bien le français, avec l'accent marseillais, parce qu'il avait quand même ses années d'apprentissage, 17 à 20 ans, c'est à Marseille. Et Paul Valéry, André Gide et d'autres qui ont parlé avec lui disaient que son anglais était complètement incompréhensible, mais que son français était pur marseillais.
Gide qui a beaucoup fait d'ailleurs pour faire connaître Conrad en France.
Alors, oui, Baudelaire, c'est fondamental, quoi. C'est vraiment fondamental chez lui et chez beaucoup d'autres, évidemment. Et on sent que aussi bien dans Le Voyage que dans un certain nombre de poèmes, d'autres poèmes de Baudelaire, il y a déjà toute la matière. Alors Baudelaire, évidemment, c'est bien gardé de naviguer. Il est allé sous les tropiques et puis il est revenu. Ça lui suffisait. D'ailleurs, un peu comme Conrad, parce que les 4 ou 5 mois sur le Vidar pour faire le tour de Bornéo, Sumatra, voir quelques ports, voir des personnages passer, apprendre et inventer des histoires de sultans, de vols de chevaux, enfin toutes ces histoires qu'on retrouve dans ces romans, ça la remplit tout de suite et ça lui suffisait. Et donc, si vous voulez, il y a le rêve baudelairien chez Conrad, ça c'est sûr. Il a parlé français très jeune, de toute façon tous les Polonais parlaient français ou venaient en France. Hein, tous les grands Polonais, Mickiewicz, tous les autres étaient Chopin, enfin bon, étaient en France au 19e siècle. Et donc Il a choisi cette langue, le français, cette littérature. Il connaissait très très bien la littérature française. Ce qui est dommage, c'est que sa bibliothèque a été dispersée dans une vente aux enchères après sa mort et que on n'a que des bribes du catalogue. Mais donc Baudelaire, oui, très important.
Quoi. Donc calme plat, grand miroir de mon désespoir. Dans le même poème de Baudelaire, il y a aussi je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre. Et cette strophe va servir d'épitaphe à l'autre roman dont vous parlez tout à l'heure de Conrad qui s'appelle Typhon.
Oui, mais c'est Gide qui l'a choisi. C'est pas Conrad qui l'a placé en début du roman. C'est Gide qui a choisi. Alors est-ce qu'il l'a fait par antithèse de la ligne d'ombre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est lui qui l'a mise.
Parce que entre Typhon, le nom permet de comprendre de quoi il s'agit, et le calme plat de la ligne d'ombre, on a l'impression qu'on a vraiment les deux faces d'une même œuvre.
Et dans le premier, on a une sorte de taureau buté comme ça qui fonce, qui se au mépris de tout et qui va vaincre la tempête, et dans l'eau, et donc c'est à la troisième personne. En plus, on n'aura jamais une bribe de pensée du capitaine McQueer. Et dans La Ligne d'ombre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment le calme plat et un jeune capitaine dont on sait tout, enfin, qui pense et qui écrit et qui dit et qui est effrayé ou rassuré, etc. Mais on aura sans arrêt son caractère et ses sentiments.
Mmh. Alors ce roman, La Ligne d'ombre, il a bien failli s'appeler Premier Commandement. C'était le titre, disons, de travail de Joseph Conrad. Qu'est-ce que ça signifie de passer de Premier Commandement à La Ligne d'ombre ?
Alors, Premier Commandement, avec ce sous-titre qui est resté d'ailleurs à La Ligne d'ombre, c'est une confession, et confession, dans la version, disons, biblique de la Pléiade, ils ont enlevé l'article, mais moi je pense qu'une confession, c'est pas la même chose que confession. Mm-hmm. Le sens, de la même façon
d'ailleurs,
que...
confession de quoi ? Enfin, de quoi se
confie, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est cet homme qui a abandonné, disons, son catholicisme d'enfance. De quoi se confesse-t-il ? Je pense qu'il se confesse d'avoir douté, d'avoir été complètement pris tout d'un coup dans cette folie ambiante, dans cette espèce de comment on peut dire, de malédiction. Or, Conrad, depuis l'âge de 11 ans, quand il est en tête du cortège funèbre de son père, c'est un destin incroyable. Je veux dire, sa mère meurt quand il a 8 ans, son père meurt quand il a 11 ans, et ensuite il est adopté par un oncle qui essaiera de l'empêcher de devenir marin, parce que un Polonais devenant marin, c'est déjà une folie totale. Il n'y avait pas de marine du tout. Et un oncle qui va l'accueillir à Marseille, lui est parti et est devenu marin, Victor. Mmh. Et alors, c'est une réflexion sur le destin. Et donc, je sentais le mot confession comme quelque chose de, à un moment donné, il a flotté, il a douté, il a peut-être même croire dans le surnaturel. Et tout d'un coup, cette goutte de pluie qui lui tombe sur l'œil en guise de larmes, ça lui remet les pieds sur terre, c'est le cas de le dire, puisqu'on est en présence d'un marin.
Et puis ce passage, ce changement de nom, c'est peut-être aussi le passage du jeu, la confession intime, au nous de La Ligne d'ombre, et qui fait peut-être référence, vous en parliez au début de cette émission, au nous de tous ces soldats qui doivent aller sur l'autre ligne d'ombre, qui est la ligne de front, et parmi ceux-là, il y a évidemment Boris, fils.
Il dédie ce livre à son fils qui naît, au moment où il l'écrit, il n'est pas encore rentré, puisqu'il rentrera seulement en 18, gazé, blessé, complètement écrasé par la guerre. Mais alors il lui met une dédicace qu'il termine par « with love », ce qui est assez rare qu'un père... alors là, on a mis affection dans la version Pléiade, disons. on m'a demandé de mettre la même chose. Ouais. Mais moi, je le sens pas comme ça du tout. C'est assez rare. D'abord, c'est très rare que Conrad emploie le mot « love ». Et là, c'est assez rare. Donc ça veut dire qu'il... C'est plus que de l'affection, c'est de l'amour. Et il est dans la crainte terrible de la mauvaise nouvelle, évidemment. Et il n'y a que l'amour, quoi. Peut-être s'il croit en quelque chose de surnaturel, ça sera ça, quoi.
Alors, surnaturel, justement, vous avez prononcé plusieurs fois ce
mot-là.
Oui, parce
que c'est le grand mot de La Ligne d'ombre. C'est...
Ouais. Alors, est-ce que c'est un roman surnaturel ou pas, justement ? Parce que question qui peut se poser, et notamment à travers le personnage très fantomatique du capitaine à qui succède le narrateur, parce que c'est un capitaine qui est mort, et que ce capitaine avait un comportement très étrange, notamment il jouait du violon comme un fou.
Alors, le capitaine
mettait en danger aussi son équipage.
Ouais, le capitaine était devenu fou. Il jouait du violon un peu comme un joueur dans un conte fantastique de Hoffmann ou d'autres. Et il a jeté son violon avant de mourir, comme ça par là. Et il a dit à son équipage, si je pouvais, je vous emmènerais. Enfin, il a toute une phrase, je vous emmènerais jusqu'au bout, vous ne pourriez plus revenir. Ce qu'un capitaine ne devrait jamais dire à qui que ce soit dans son équipage. Et alors... au moment où, alors en plus, ce capitaine s'était attardé dans un port d'Asie pour vivre des aventures avec une femme.
Oui, il avait du coup retardé son équipage.
Donc on comprend qu'elle sortait quand même d'un bouge. Et au moment où le jeune capitaine, nettoie la cabine du commandant, il découvre la photo de cet homme avec cette femme et symboliquement, il la jette à la mer lui aussi, comme si cet objet allait dépolluer d'un seul coup les malédictions du navire. Quoi.
Mais du coup, cette idée du fantastique, si on posait la question à Conrad, on ne peut pas le faire malheureusement, peut-être nous répondrait-il que le fantastique, il est présent dans la réalité quotidienne.
Est-ce que c'est votre sentiment ? Il y a répondu dans la note de 1920 qu'il a fait ajouter au début de son livre, qu'on trouve dans l'édition de la Pléiade, comme dans l'édition Folio, il est fou furieux. Il dit, on m'accuse d'avoir fait un roman gothique, en fait, en quelque sorte. Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne crois absolument pas dans ces choses-là. Et il le dit d'une façon très drôle et très bien, car en fait, tout le roman, c'est une sorte d'ordalie. Le jeune capitaine est pris. Bon, d'abord, il doit commander. Ouais. Il commande un équipage de moribonds, mais il doit commander. Ensuite, il est pris dans des tas de choses qui arrivent rarement, mais bon, le calme plat, la folie d'un homme, la légende qui fait que le capitaine meurt et flotte sous l'eau dans le golfe du Siam et les maudits, en fait, en quelque sorte. Et donc, tout ça, il s'en tire très, très bien. Et il le montre dans cette petite note. Il montre que, en fait, tout ça, ce sont des irisations de l'âme, en quelque sorte, et qu'on peut très bien surmonter ces...
Mais alors, s'il n'y a pas de fantastique, il y a quand même une atmosphère d'angoisse, une atmosphère d'horreur, qui n'est d'ailleurs pas tellement apaisée par le fait qu'il n'y a aucune femme. Enfin, le fait qu'il n'y a aucune femme dans ce roman.
Il y a cette femme qu'on jette à la mer.
Voilà, mais
il y a une femme quand même qui est vraiment le personnage principal. C'est l'Otago, le navire. C'est un nom magnifique. Il n'a pas inventé du tout. Moi, j'ai vu des images, enfin des aquarelles qui représentent ce navire. C'était un très, très joli trois-mâts barque. Otago, l'otage.
Oui, lui qui parlait français, il ne pouvait pas passer à côté.
Absolument.
De ce sens-là.
Alors, il en parle de façon... bon, évidemment, comme vous savez, les Anglais mettent le féminin au navire. Et voilà ce que dit Conrad. Parce qu'en fait, il vient de Singapour, il arrive en bateau à Bangkok, il remonte la rivière, évidemment, rivière qui est toujours aussi polluée qu'à son époque, énorme rivière, sur le bord duquel il y a un hôtel, l'Oriental, dans lequel il va séjourner plusieurs fois, et aujourd'hui, il y a vraiment tout un souvenir de lui, de Kipling et d'autres, et il passe devant son bateau. Et alors, je savais que c'était, comme quelques rares femmes, une de ces créatures dont la seule existence suffit à éveiller un ravissement dépourvu d'égoïsme. On a le sentiment qu'il est bon de vivre dans le monde qu'il abrite. C'est extraordinaire, ça.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alain Jaubert, nous allons reprendre cette conversation dans quelques minutes, le temps d'aller voir ce qu'il se passe du côté des revues aujourd'hui avec vous, François Méronis de la revue Ligne de Risque. Bonjour.
Bonjour.
J'ai une première question à vous poser, mais je ne sais pas dans quel sens exactement la formuler. La ligne d'ombre est-elle une ligne de risque ou la ligne de risque est-elle une ligne d'ombre ?
Il y a évidemment un repart, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est de déterminer la part d'indemne dans l'ombre. C'est-à-dire que le cœur de l'ombre, c'est la destruction, et il est possible qu'il y ait au cœur même de la destruction quelque chose qui relève de l'indemne. C'est ça qui nous intéresse, en fait. Et c'est à travers le langage qu'on essaye de le trouver.
Ça vous intéresse depuis 20 ans, car c'est depuis l'anniversaire de la revue Ligne de Risque. Oui.
Il y a 20 ans, c'est-à-dire en janvier de 1997, nous avons fondé cette revue, Yannick Hennel, Frédéric Badré et moi, et ça, la première livraison concernait l'apocalypse déjà. Donc là nous sommes passés, c'est assez drôle, il y a une forme de cohérence, de l'apocalypse à dévoilement du Messie. Et dans l'apocalypse, ce qui nous intéressait, c'était le dévoilement de l'âge de la fin. Et à travers...
Ça y est, on y est là.
Voilà, on y est de manière évidente aujourd'hui.
Ah.
À l'époque, c'était un peu, comment dirais-je, un peu osé, les gens étaient sceptiques. Ce que nous disions à l'époque, par exemple, c'est qu'il y avait une dégradation du langage, que nous étions en quelque sorte, en tant qu'écrivains, les témoins vivants de l'exil de la parole.
Ah.
C'est ça qui nous
intéressait. Et alors, il y avait à l'époque ce que vous considériez comme un symbole de cette dégradation, c'est l'arrivée, l'avènement de Michel Houellebecq.
Oui, les choses se sont confirmées. C'est-à-dire qu'il est devenu aujourd'hui, d'une certaine manière... l'écrivain le plus marquant, en fait. D'une certaine façon, il annule, il anéantit par sa seule présence toute la production littéraire. C'est-à-dire qu'à chaque rentrée littéraire, il y a des centaines de livres qui sont en fait déjà sinistrés, qui ont déjà disparu.
Ouais. Et vous l'appelez le grand ventriloque de l'impasse.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ben, l'impasse, c'est justement cette ligne d'ombre au sens où je l'entends. C'est-à-dire, c'est le fait que nous soyons tous pris dans le nihilisme. C'est-à-dire le fait que la parole est déjà, d'une certaine manière, néantisée avant même qu'elle se le déploie. C'est-à-dire que tout est voué à l'insignifiance. Ce qui compte, d'une certaine façon, dans le monde éditorial, par exemple, c'est le déploiement de la marchandise. Et à partir de là, effectivement, rien ne se passe. Il y a une espèce de figement. Par ailleurs, il y a aussi l'emprise de ce que nous appelons l'instantanéité à travers les réseaux numériques et qui fait que le temps lui-même est comme aplati, comme figé. Mmh. Et ce qui nous intéresse, c'est à travers justement une certaine méditation endurante du langage, de rejoindre quelque chose qui s'ouvrirait. Ouais. C'est pourquoi on s'intéresse pas seulement, on s'intéresse évidemment à des écrivains, on s'est beaucoup intéressé à Lautréamont, à Bernard Lamarche-Fadel, à beaucoup d'écrivains. On s'intéresse aussi aux traditions spirituelles, par exemple maintenant au judaïsme.
Et alors, vous avez donc trouvé comme réaction finalement à ce nihilisme ambiant l'écriture. Que peut-on trouver alors dans ce numéro? C'est le numéro de cette année, hein, parce que c'est une revue qui est
annuelle. Il est sorti le 8 septembre.
Oui, alors il y a par exemple un entretien avec Philippe Solers, il y a aussi un extrait de l'imitation de Barthelby de Julien Battesti. Oui. De quoi souhaitez-vous par exemple nous parler? Qu'y a-t-il au sommaire de ce numéro ?
Julien Battesti est un jeune écrivain de 30 ans, à peu près, qui est en train d'écrire un livre. Il est à Ajaccio en ce moment. Il est en train d'écrire un livre qui, à mon avis, va être passionnant. Et c'est aussi, à mon sens, le rôle d'une revue que de manifester des jeunes talents. C'est-à-dire que nous avons déjà publié, par exemple, Friederike Amalia Finkelstein, ses premiers écrits. Et là, maintenant, nous récidivons avec Julien. Je pense que c'est un très beau texte. C'est un très beau texte, oui.
Très bien. Et il est donc à découvrir dans Ligne de risque. Voilà. Comment fait-on pour se procurer votre revue?
On l'achète dans les librairies littéraires, on va dire.
Merci François Méronis. À bientôt. Alain Jaubert, parlons un peu de vous. En 2004, votre premier roman paraissait chez Gallimard. Il s'appelait Valparadis et il vient d'être repris en folio, là aussi chez Gallimard. Et comme chez Conrad, son univers se situe parmi les gens de mer, les gens de la marine, les marins. C'est d'ailleurs l'histoire d'un jeune marin qui fait escale dans le port mythique de Valparaiso vers la fin des années 50. Un jeune marin comme vous l'avez vous-même été, et d'ailleurs ce roman est peut-être une transposition de votre propre histoire. Vous avez été pilotin, comme Conrad. C'est quoi exactement un pilotin ?
Ce n'est pas un pilote en tout cas. Pilotin, c'est aujourd'hui, disons, c'est l'élève d'une école de marine qu'on met à bord d'un bateau où il va passer un, deux, trois voyages, un mois ou deux peut-être, et de façon à apprendre le métier. À l'époque de Conrad, alors il est pilotin avec les pilotes, là justement, c'est pour ça qu'il y a souvent une confusion, avec les pilotes du port de Marseille qui l'adoptent. Ça les fait rigoler de façon extraordinaire parce qu'il arrive en paletot comme ça pour se faire une sortie en mer. Il est mort de froid au bout de quelques instants. Et c'est vraiment un petit Polonais qui parle plutôt bien français puisqu'il a eu quand même des professeurs. Il a 16 ans, 17 ans, et donc il est un apprenti. On va dire que c'est une sorte d'apprenti. Alors le mot pilotin par rapport à mousse, c'était plutôt affecté aux élèves officiers, c'est-à-dire ceux qui, enfin, disons aux intellectuels, aux aristocrates de la mer, pendant que le mousse, lui, était carrément le jeune homme qui se formait pour être matelot. Mmh. Il y avait une différence de classe là très forte.
Vous connaissiez Conrad à ce moment-là? Vous aviez lu déjà? Oui.
Oui, mais moi, ce que je raconte dans Valparadis, c'est pas mon expérience personnelle. J'ai fait effectivement mon premier voyage sur un paquebot français à Buenos Aires. Enfin, Buenos Aires, on dirait. Et on disait Buenos Aires. Et j'ai raconté l'histoire à l'envers. C'est-à-dire que au lieu de descendre le long des côtes du Brésil, je fais descendre mon personnage le long des côtes de l'autre côté du Chili en passant par Panama. Et oui, j'ai lu Conrad très très jeune. Et ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Oui.
C'est quoi votre rapport personnel, finalement, à cet écrivain, à cet auteur? Vous le voyez comment?
Vous savez, on ne s'en aperçoit pas en lisant, évidemment. Quand on lit, on est pris dans... Mais c'est quand même un grand inventeur. Hein. C'est lui qui a inventé... Disons, à l'exception d'Homère avec l'Odyssée, c'est lui qui a inventé le flashback. Tout le cinéma lui doit ça. C'est-à-dire, c'est comme... La Folie Hallmayr, c'est un modèle du genre. C'est-à-dire qu'on commence... Puis on revient en arrière, et tous ces emboîtages successifs qui sont d'une folle ingéniosité littéraire. Donc quand on lit La Folie Hallmayr, Le Nec du Narcisse, etc., on se rend pas compte que l'envoûtement vient de ce procédé littéraire extraordinaire qui va rejaillir sur tout le XXe siècle.
Malgré tout ce que l'on a dit de l'amour que certaines natures, la terre, ont prétendu éprouver pour elle, malgré des célébrations dont elle a été l'objet en prose et en chanson, la mer n'a jamais été amicale envers l'homme. Tout au plus a-t-elle été complice de la fièvre des hommes et joué le rôle de dangereux fauteur d'ambition à l'échelle du monde. Incapable de cette fidélité envers une race que sait avoir la terre bienveillante, n'acceptant de recevoir la marque ni du courage, ni de l'effort, ni du sacrifice de soi, ne reconnaissant le caractère définitif d'aucune domination, la mer n'a jamais épousé la cause de ses maîtres, comme l'ont fait ces terres où les nations victorieuses de l'humanité ont pris racine, y balançant leurs berceaux et y érigeant leurs pierres tombales. Celui, homme ou peuple, qui mettant sa confiance dans l'amitié de la mer, néglige la force et la ruse de sa main droite, est un imbécile. Comme s'il était trop vaste, trop puissant pour avoir des vertus ordinaires, l'océan n'a pas de compassion, pas de foi, pas de loi, pas de mémoire. Son inconstance ne peut être maintenue dans la loyauté envers les desseins des hommes que par une détermination inébranlable et une vigilance sans cesse en alerte, armée et jalouse, dans laquelle peut-être il est toujours entré plus de haine que d'amour. Odi et amo pourrait bien être l'aveu de ceux qui, consciemment ou aveuglément, ont abandonné leur existence à la fascination de la mer.
Un extrait du Miroir de la mer de Joseph Conrad. Est-ce que vous diriez que votre rapport à la mer, Alain Jaubert, ressemble à celui de Joseph Conrad tel qu'il vient de le définir?
Oui, on est encore dans Baudelaire. Homme libre, toujours, tu chériras la mer. Je ne suis pas un fanatique de la navigation. Il se trouve que par mon destin, les hasards de mon destin, moi-même, j'étais sur la mer.
Et donc, oui, ça m'a incité à cette littérature-là aussi.
Non, mais ce qui est intéressant, et on le trouve très bien chez Conrad, c'est que... Enfin, maintenant, les voyages, même en bateau, sont un peu plus rapides, mais la navigation, c'est comme aller au couvent, en fait, ou dans un monastère. C'est-à-dire que vous entrez dans une cabine et vous allez y rester pendant des mois avec aucune occupation possible, sauf regarder la mer, justement. Et donc, cette espèce de fantastique mise entre parenthèses de votre vie qui vous force à la méditation, à l'écriture... C'est quelque chose que le terrien parisien affolé tous les jours ne peut pas comprendre. Ça, c'est quelque chose. Et même encore aujourd'hui sur les navires qui sont peut-être pas aussi beaux que ceux qu'a commandé Conrad, il y a des gens qui s'enferment et puis qui naviguent comme ça, qui vont au bout du monde.
Et alors, qui décrivent la mer violette.
Et qui voilà, et la fascination. Non, la mer violette, c'est la Méditerranée. Attention, pas n'importe laquelle. C'est la Méditerranée d'Homère. Et donc, si vous voulez, j'ai toujours fasciné. J'aime bien toujours naviguer si c'est possible. Sauf qu'aujourd'hui, sur les énormes porte-conteneurs, c'est vraiment d'une d'une laideur abominable.
Et d'ailleurs, Conrad le sentait, ça,
oui,
que la navigation à voile, elle se terminait.
Alors, en fait, Conrad, c'est un peu un hypocrite, parce que il vante la beauté de la voile. Il se rend compte que il a écrit d'ailleurs une série d'articles sur le naufrage du Titanic, qui sont absolument un texte extraordinaire qu'il faut lire. C'est la violence contre la technocratie, contre
la technologie aussi.
Oui, la technocratie, la technologie, les riches qui pourraient pas se passer d'un piano à queue sur leur bateau, etc. Ça, les deux articles sont absolument extraordinaires. Mais alors, il vante effectivement la navigation à voile, le côté paisible, mais il oublie de dire quand même que la plupart des boulots qu'il a fait consistait à transporter des marchandises plus ou moins belles ou plus ou moins ignobles. C'est-à-dire que tout le côté commerçant de la navigation à son époque, il le passe complètement sous silence. Sauf, à un moment donné, c'est très très drôle d'ailleurs, je crois que c'est un souvenir de la fortune, il transporte une cargaison de patates depuis l'île Maurice jusqu'à, je sais plus où, à l'Australie. Évidemment, tous les jours, la corvée, consiste à aller mettre les patates qui pourrissent à la mer. Enfin, c'est le seul moment. Et puis juste, alors, l'Otago, son navire, quand il le voit, il a une espèce de réflexe, parce que au moment où il remonte la rivière de Bangkok, et qu'il voit son navire, donc il le décrit avec les phrases que je vous ai lues tout à l'heure. Et puis à un moment donné, on est en train de charger une énorme bille de bois. Le navire tremble. Alors là, ça lui fait une espèce de coup au cœur parce qu'il il souffre déjà pour son navire, quoi.
Et parce que aussi son navire est une incarnation féminine.
Ah oui, absolument. Oui. Mais sinon, la navigation à l'époque, même à voile, était déjà une horrible mécanique commerciale, quoi.
Ouais. C'était. Alors le jeune Conrad arrive au bord de la mer Violette et c'est dans les années
75.
Voilà, 1875. Et là alors vous imaginez qu'il va rencontrer Rimbaud. Pourquoi partez-vous de ce présupposé là dans votre livre alors, au bord de la mer Violette?
L'idée m'a été suggérée par
chez Gallimard.
La lecture d'un article, traduction d'un article écrit par un érudit de Jakarta, le bout du monde, en 1971, où il évoquait, je pense que c'est les personnages de Victoire, en disant que c'était une espèce de caricature imaginée d'après les personnages de Rimbaud et Verlaine. Donc, Conrad, vers la fin du 19e siècle, a entendu parler des aventures homosexuelles de Rimbaud et Verlaine. Il en fait deux personnages très antipathiques, puis d'ailleurs ceux à cause de qui le drame va avoir lieu. J'ai trouvé ça très, très, très tiré par les cheveux. Enfin bon, je le sentais pas.
Pourquoi en fait-il deux personnages très antipathiques d'ailleurs?
Ben oui, justement, pourquoi? Ah, il a à un moment donné, il a quand même un grand réflexe. Il est copain avec Roger Casement, par exemple, au Congo belge, donc il admire la lutte que Casement a lancée contre le colonialisme esclavagiste, etc., épouvantable. Mais au moment où Casement, donc des années plus tard, pendant la guerre de 14, va être accusé par les Anglais de conspiration pro-irlandaise et menacé de pendaison, il signera pas la pétition. Pourquoi? Parce que les services secrets anglais ont piqué le journal intime de Casement. Peut-être l'ont-ils aussi beaucoup augmenté. Et on voit que Casement avait des aventures homosexuelles à Londres, à Dublin, etc. Donc, il y a une espèce de puritanisme chez lui. Alors, peut-être que c'est... Alors, donc, les deux personnages, effectivement, il les décrit pas comme des homosexuels, mais il les décrit comme vivant ensemble, enfin, très près et tout. J'ai trouvé l'article très tiré par les cheveux. Mais, à un moment donné, il disait peut-être Conrad a-t-il rencontré Rimbaud à Marseille en 71.
C'est probable, c'est possible. Non, c'est pas probable, c'est possible.
Voilà, c'est possible. Mm-hmm. Alors ça m'a beaucoup trotté dans la tête pendant des années, en fait, hein, jusqu'à 30 ans. Et puis je me suis dit, mais finalement, oui. Alors j'ai regardé évidemment toutes les dates. Et la date que j'ai choisie pour leur éventuelle rencontre, c'est la veille de l'embarquement de Conrad pour les Antilles. Donc il est tout jeune, il a 17 ans. Rimbaud lui-même a 20 ans. Donc ils sont vraiment de jeunes ados.
Mais il y en a un qui a déjà une œuvre derrière lui et l'autre.
Oui, mais qui veut pas le dire.
N'en a pas.
Qui veut pas le dire, qui veut pas le savoir, même en quelque sorte, hein, puisque. Et alors, je me suis demandé après, mais j'ai cherché, est-ce que vraiment Conrad a pu connaître d'abord l'œuvre de Rimbaud, hein, parce qu'il fallait la lire. Oui. Alors, Conrad, dans tous les ports où il a beaucoup navigué et donc il a fait des escales aussi en France, à Rouen en particulier, où il a acheté toute la littérature qu'on pouvait trouver dans les librairies. Et dans la vente aux enchères de ses livres après sa mort, il y a un exemplaire des œuvres complètes, la fameuse première édition, là, des œuvres complètes de Rimbaud, décrites dans le catalogue comme toutes dépenaillées. Je ne sais pas qui a acheté cet objet, mais bon, en tout cas, il a disparu. Alors, il l'a connu, il en parle très peu dans sa correspondance, 2 ou 3 fois seulement. Est-ce qu'il peut l'avoir... Oui, alors moi j'ai inventé. Donc
la date, c'est le 24 juin 1875. Hein. Les historiens peuvent se mettre sur l'affaire pour vérifier cette date que vous avez inventée, la date de leur rencontre.
Non, mais c'est sûr que Rimbaud est à Marseille ce jour-là, et Conrad aussi. Quoi. Ouais. Donc après, j'ai imaginé... Parce que Rimbaud était très lié à Marseille, hein, il est resté assez longtemps. Ensuite, il est revenu y mourir, évidemment, comme chacun sait. Et Conrad est revenu à Marseille aussi, en 1921. C'est une épopée absolument hallucinante qu'il a racontée, que sa femme aussi a racontée dans un recueil de souvenirs, parce qu'ils partent en Cadillac depuis leur propriété dans la région de Londres. Ils descendent, la Cadillac tombe à l'eau à Douvres, il faut la ressortir, etc. Enfin bref, il leur arrive des tas de mésaventures et ils visitent les champs de bataille avec Boris, avec le fils justement. On est 4 ans après la guerre. Mm-hmm. Et à l'issue de ce voyage immense, ils se font voler. C'était déjà à la mode à l'époque leur cabochon là. Il est en Cadillac, donc c'est quand même un objet
de radiateur.
radiateur. Que quelqu'un leur ramène. Enfin bon, ils font escale, ils s'en vont. Et ils descendent jusqu'à Marseille dans l'idée d'aller en Corse parce qu'il veut écrire un grand roman napoléonien. Enfin de l'époque de Napoléon, qu'il n'écrira pas. À la place, il écrira ce roman qui a été traduit de 25 façons différentes, qui s'appelle The Rover, le frère de la côte, le corsaire, enfin bon, il y a plein de traductions avec des titres différents, qui se passe en effet à l'époque napoléonienne et à Toulon, dans la rade de Toulon. C'est son dernier vrai roman, enfin, en quelque sorte. Mais pendant 3 jours, il est à Marseille, et donc j'ai imaginé que c'était un retour, une sorte de retour sur la mémoire, et au milieu, donc, il y a l'agonie de Rimbaud à l'hôpital de la Conception.
Donc c'est votre liberté de romancier, évidemment, et vous l'utilisez aussi pour parler des femmes de Conrad et des amours de Conrad. Pourquoi avoir cherché comme ça à raconter ces amours imaginaires de Joseph Conrad ?
Si vous voulez, les biographes anglais sont... il y a eu beaucoup de biographies. Ils sont très puritains. Ils ont à peine ébauché ce que ça pouvait être. Alors dans La Flèche d'or, par exemple, qui est un roman moins bien que les autres, Conrad raconte son amour fou pour un personnage dont on pense aujourd'hui que c'était la maîtresse du prétendant, le fameux Don Carlos. Il y a toute une histoire comme ça très, très bizarre, et il fait une tentative de suicide qu'il transforme dans son roman en un duel avec son rival, et sa blessure près du cœur serait due à un duel. Donc déjà, on a une aventure là. Juste ça se passe 2 ans après leur éventuelle rencontre. Mmh. Mais au moment même où il arrive à Marseille, ça on le sait grâce aux travaux de Claudine Lesage, il est pris en charge par l'immigration polonaise. Et donc il semble qu'il ait eu une liaison avec... Thérèse Chodzko, qui est la femme du docteur Millot, qui reçoit des convalescents ailleurs, avenue des Îles d'Or, dans une sorte de sanatorium, où il va souvent. Mais alors ça, il n'en a jamais parlé. Et en fait, il repart après aux Antilles. Et avant juste au moment où il débarque, elle se suicide en se jetant à l'eau dans la Méditerranée. C'est une histoire extrêmement mystérieuse. On ne sait pas ce qu'il y a eu entre eux, s'il y a eu... Bon, j'ai brodé là-dessus un peu, évidemment. En plus, les travaux de Claudine Lesage, qui a beaucoup travaillé sur Proust et sur Edith Wharton aussi, toujours dans la même région, sont assez convaincants, en fait. Il y a quelque chose qui a pu se passer entre cette jeune femme polonaise qui s'ennuyait profondément auprès de son mari français, et puis le jeune... et fougueux Conrad qui débarque là comme ça et que sa famille est chargée de protéger.
Et puis vous laissez le dernier mot de votre roman à Rimbaud, c'est sur la terrasse du Vieux-Port, une terrasse du Vieux-Port, et Conrad réfléchit à sa vie et il repense tout à coup au célèbre vers du poète qu'il avait donc rencontré, imaginez-vous.
Cette fois il les connaît parce que c'était impossible pour un écrivain en 1921 d'ignorer Rimbaud.
Elle est retrouvée.
Quoi donc ? L'éternité ?
C'est la mer.
Alors là, il y a deux versions. Moi, j'ai choisi la vraie, la première version, mais c'est la mer allée avec le soleil.
Merci beaucoup, Alain Jaubert. Je rappelle votre roman « Au bord de la mer violette » s'est paru chez Gallimard en 2013 et réédité en folio en 2015. Roman dans lequel donc vous imaginez le moment marseillais de Conrad avec un K, on l'a pas dit. C'est le double de Joseph Conrad avec un C. Conrad dont nous parlons toute la semaine. Je signale aussi que la revue Ligne de risque est parue aux éditions Multiples, nous ne l'avions pas dit. Demain, nous serons en compagnie de Marc Poré pour parler notamment d'Au cœur des ténèbres, mais tout de suite, un peu de poésie avec Jacques Bonnafé.
Bonjour. On pourrait s'amuser à la présenter à la façon d'un critique onctueux, chère Anna Akhmatova. Quand vous parlez de ces amours enfuis, c'est à nous présents que vous parlez. Chère Anna, vous demeurez, et ce que vous posez là, plus d'un siècle au loin, cette tristesse enfouie, la peine exprimée de ce qui n'est plus, semble destinée à se faire lire aujourd'hui. Mon mari, sais-tu, m'a cinglé hier de sa jolie ceinture repliée. Pour toi, sans éteindre la lampe, à la fenêtre, j'ai passé la nuit. Le jour se lève, au-dessus de la forge, maintenant monte une fine fumée. Pourquoi n'es-tu venu rejoindre la plus triste des prisonnières ? C'est pour toi que je connais ce sort qui n'est que long tourment. Dis-moi, est-ce une blonde qui t'est chère, une rousse qui maintenant t'attend ? Comment cacher ces gémissements, la fièvre en mon cœur oppressé, tandis que les premiers rayons se posent sur le lit qui n'a pas été froissé ? Anna Akhmatova, dans « Requiem, poème sans héros », paru en Poésie Gallimard, la magnifique préface de Jean-Louis Baquès nous dit que la poétesse a divers visages. Faut-il rappeler qu'Akhmatova est un pseudonyme provoquant ? Dans Akhmatova, il y a Ahmed, nom coranique, qu'a transfiguré son passage par l'Asie centrale. On ne peut enchaîner deux cœurs, si tu veux t'en aller, va-t'en. Ne promettons pas le bonheur à qui vit sa vie librement. Je ne pleure ni ne me plains, le bonheur n'était pas pour moi. Ne m'embrasse pas, je suis lasse, ce baiser la mort me le donnera. Le temps des tourments est passé, comme l'hiver s'est enfui. Pourquoi, pourquoi l'emportes-tu sur celui que j'avais choisi ? La nuit blanche dans le poème sans héros. Non, je n'ai pas fermé la porte, ni même allumé les bougeoirs. Ah, le sais-tu que lasse et morte, je n'osais me coucher ce soir ? J'entends dans un bruissement d'arbres une voix inconnue me disant « Qu'es-tu devenu et de toi que fit ton amant ?» Il te voue aux langueurs amères, aux poisons d'amour sans espoir, quelles sont lourdes tes paupières, comme passées au crayon noir. Tu prétends avoir bonne mine, mais sembles sortir d'un cercueil. D'ailleurs, je sais qu'en ta poitrine, ton cœur ne tient que par orgueil. Je dis au calomniateur, tais-toi donc, tais-toi, noir vautour. Il m'est soumis de tout son cœur, amoureux de moi pour toujours. Anna Akhmatova a connu une grande popularité. Elle est profondément russe, avec parfois des réactions de simples femmes du peuple, infiniment émouvantes chez ce poète accompli. Elle se dépouille elle-même de tous les prestiges de sa haute culture, au point que l'on croirait parfois entendre dans ses vers les cris ou les invocations d'une paysanne. « Que de gaieté dans ton ivresse, autant leur sens à tes paroles. L'automne qui déjà s'étend, pavoise de jaune les ormes. »
Merci Jacques Bonnafé, vous lisiez aujourd'hui des poèmes d'Akhmatova.